tous les matins, je prends ma petite marche vers la station. Ouais. Puis au début de l'été, là, j'étais très allergique. Je sais pas à quoi, là, mais ça, il y a des matins où ça allait pas
pantoute.
Ça allait pas pantoute. Puis là, depuis quelques semaines, ça allait. Puis j'étais plus vraiment. Mes petites marches fonctionnaient super bien. Là, il y avait pas de problème. Puis là, sorti d'un peu nulle part ce matin, hey, ça allait pas. Ça allait plus. On dirait que je me suis retrouvé au début de l'été quand j'étais allergique, que j'avais le nez pogné, que je reniflais, que.
Yeux te piquent, les oreilles te piquent. On dirait que c'est envahissant. Là.
Donc j'en ai parlé à notre allergologue, qui est notre invité aujourd'hui. Dans l'open mic?
Oui. Écoute, je vais vous le présenter. Jean-Nicolas Boursiquet, qui est allergologue, effectivement. Donc, docteur Jean-Nicolas. On lui parle aujourd'hui de base, parce qu'il y a un article du Devoir qui est sorti la semaine passée sur un nouveau traitement prometteur pour les allergies alimentaires, une transplantation de microbiote fécal. Je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer. Mais définitivement, on veut savoir ce que ça mange en hiver. Puis on aura l'occasion d'aborder les questions plus concernant les allergies. Fait que ce qu'il y a à l'extérieur, les animaux, évidemment, les allergies alimentaires, les intolérances aussi, je rentre ça là-dedans. La différence entre les deux, tu peux-tu aggraver une intolérance? Moi, je suis une grande allergique. Hein. J'ai des allergies poissons, fruits de mer. J'ai des réactions aux animaux à dehors, je m'en sors pas. Et j'ai une intolérance au lactose pour mettre une petite cerise sur le sundae. Fait que j'ai comme l'impression qu'on va pouvoir démystifier tout ça parce que je regarde dans mon entourage et de plus en plus de gens ont l'air d'avoir des allergies, puis ça a l'air de commencer vraiment tôt dans une vie. Donc, Jean-Nicolas qui est avec nous ce matin, merci de prendre le temps de venir t'installer puis de nous démêler dans tout ça.
Ben merci infiniment de me recevoir en studio. Puis Maxime, écoutez, mes sympathies, c'est sûr que les allergies, c'est très difficile, mais les allergies saisonnières, c'est comme les impôts. On sait, ça revient à chaque année.
On n'a pas le choix, c'est ça.
mais tu sais, le pire, personnellement, je suis super chanceux. J'ai pas d'allergie alimentaire. C'est juste un petit gossage de nez. Puis ce que tu me disais avant qu'on entre en onde, c'est que oui, ça peut arriver que tout aille bien pendant des semaines, puis que là, à un moment donné, avec un genre de mélange météo qui ramène du pollen, puis ben ça se peut que ça recommence comme ça un matin comme ce matin.
Oui, tout à fait. Donc, si on parle des allergies un petit peu saisonnières, ben, c'est dû au pollen dans les airs. Il faut savoir qu'au Québec, on a trois grandes saisons pour les pollens. Ça commence au printemps, à la fonte des neiges, lorsqu'il y a des bourgeons dans les arbres. C'est le pollen du bouleau et les autres arbres qui vont nous incommoder. À partir du mois de juin, c'est plus les graminées, donc le foin, le gazon. Ce que nos grands-parents appelaient le fameux rhume des foins. Donc, c'est un autre type de pollen. Et à partir du mois d'août, ben, c'est l'herbe à poux. Pas l'herbe à puce, hein, c'est pas la même chose. On parle de l'herbe à poux. Donc, mon cher Maxime, c'est ce qui vous incommode ces jours-ci.
Non.
Puis malheureusement, vous allez être pogné avec ça jusqu'à la première gelée par terre. Donc, ça peut aller jusqu'au mois d'octobre, voire même début du mois de novembre, avant qu'il ne reste plus une graine de pollen dans les airs.
Ah. OK. Est-ce que ça peut apparaître avec le temps?
Ah oui, certainement. On ne naît pas avec une allergie, on va la développer avec le temps. Donc, on sait que les allergies au pollen vont se développer à partir de l'âge de 7, 8, 9 ans. Donc, il faut avoir été exposé au pollen quand même quelques fois dans sa vie. Généralement, il va y avoir un pic chez les jeunes adultes, mais ça peut très bien débuter à l'âge de 40, 50 ans. Donc, c'est très imprévisible.
Moi, ça fait 2 ans. Là. Ça fait 2 ans que c'est comme apparu de nulle part, que là, tout d'un coup, j'achoume, je suis pas bien, je me frotte le nez. Puis, j'ai entendu dire que, dépendamment de tes allergies, il y a des antihistaminiques que tu peux prendre qui vont peut-être aider davantage. Tu sais, là, il y a les claritins, les réactines, il y en a toutes sortes, là. Est-ce que c'est vrai, ça?
Oui, tout à fait. Il faut faire excessivement attention à ce qu'on retrouve en vente libre à la pharmacie. Donc, on connaît tous des médicaments comme le Benadryl, diphénhydramine. Ce sont des médicaments qu'on dit de première génération. Donc, c'est les premiers types d'antihistaminiques qui ont été développés et offerts sur le marché. On les recommande pas en tant que médecin allergologue parce que ça cause de la somnolence et aussi c'est pas très efficace, ça dure pas longtemps. Alors vraiment, ces antihistaminiques ou comme l'Atarax, le chlortripolon, on fait une croix sur ça. On va plutôt favoriser les antihistaminiques qu'on dit de deuxième génération. Vous avez parlé du claritin, il y a également l'aérius, la réactine qu'on peut trouver. Alors, c'est moins associé à la somnolence et ça dure généralement pendant un 24 heures. Donc, on a un meilleur contrôle des symptômes et il y a même certains antihistaminiques qui ne sont pas disponibles en vente libre, qu'on peut avoir sur prescription, comme le Rupal ou le Blexten, qui semblent même avoir un effet ajouté par rapport aux antihistaminiques qu'on trouve en vente libre.
Est-ce qu'on peut s'habituer à un antihistaminique? J'ai l'impression l'impression, je suis peut-être débile aussi, là, docteur Boursico, mais j'ai l'impression que moi, Réactine, mettons, ça fait plus. J'en ai trop consommé, je sais pas, mais on dirait que ça marche plus. Est-ce que dans ce temps-là, il faut juste changer de marque, de sorte, tu la molécule? Qu'est-ce qui se passe?
Très bonne question, Audrey. C'est une question qu'on nous pose souvent là, en clinique. Donc, il n'y a pas une accoutumance où on ne s'habitue pas à un type d'antihistaminique. Si on voit qu'à la même dose d'antihistaminique, les symptômes ne sont pas bien contrôlés, c'est que nos allergies sont trop sévères. Donc, on doit aller vers d'autres options de traitement, que ce soit les sprays de cortisone pour le nez ou la désensibilisation. Maintenant, de changer d'antihistaminique, antihistaminique, ça ne fait pas une grande différence au point de vue, disons, physiopathologique parce qu'on va venir bloquer les mêmes récepteurs. Je vais quand même suggérer à certains patients de changer leur antihistaminique pour voir est-ce qu'il y a moins d'effets secondaires. Donc, un patient qui me dit, par exemple, la Réactine, c'est marqué sans somnolence, mais je m'endors. Mais c'est quand même efficace. Qu'est-ce que je fais? Bien là, je vais peut-être recommander de changer pour un autre antihistaminique pour voir si on a moins d'effets secondaires.
Est-ce que les allergies, mettons, au pollen, même si c'est différents types de pollen, est-ce que quelqu'un qui est allergique, mettons, à un type de pollen, nécessairement a des bonnes chances d'être allergique à pas mal tout le pollen, d'être pogné avec ça pas mal tout l'été, printemps, automne?
C'est très variable d'un individu à l'autre. Alors, les gens qui font des allergies, on les appelle les atopiques. L'atopie, c'est une propension à développer des allergies. Maintenant, quelle allergie est-ce qu'on va développer? C'est très variable d'un individu à l'autre. Vous l'avez dit, il y a des gens là, qui sont incommodés de la fonte des neiges jusqu'à la première gelée. Donc ça, c'est des gens qui sont heureux seulement l'hiver. C'est un petit peu dramatique. Mais il y a aussi des gens qui sont plus incommodés au printemps, puis rendus à l'été, ça va mieux, puis à l'automne aussi. Il y a des gens qui sont allergiques à leurs animaux de compagnie, aux acariens, donc la poussière. Donc, c'est des gens qui vont être incommodés quatre saisons. Donc, c'est très variable d'un individu à l'autre. Et même pour un seul individu, ça peut être variable au courant de sa vie. La personne pourrait avoir du rhume des foins, donc avoir des allergies saisonnières, nez bouché, éternuement, les yeux qui grattent seulement juin-juillet. Puis plus tard dans la vie, on dirait que l'automne se rajoute. Donc, c'est très dynamique. Hein? C'est pas gelé dans le béton. Là,
puis on peut jamais les perdre, mettons. Parce que là, je vois que ça s'accumule, mais ça se peut-tu, mettons, que les foins nous quittent à un moment donné?
Bien, c'est sûr que si on déménage dans un endroit où est-ce qu'il n'y a pas de graminées, bien, si on n'est pas exposé à un pollen auquel on réagit, bien, on n'aura pas de réaction. Mais c'est quand même difficile de recommander à nos patients de s'engapaner durant l'été, de ne pas être exposé au pollen. Donc, on sait que le traitement des sensibilisations ne va pas nécessairement venir faire en sorte que nos patients vont guérir, mais ils vont être améliorés sur une longue période de temps. Mais c'est sûr qu'avec l'âge, on dirait qu'il y a certaines allergies qui vont diminuer, quitte même à disparaître. Mais ça, les mécanismes ne sont pas encore très bien élucidés. On ne sait pas pourquoi qu'on peut être très, très incommodé quand on est un jeune adulte par certains pollens, puis rendu à 60, 70 ans, ben non, on ne s'en fait plus.
C'est un coup, c'est plus si grave que ça. Prévenir, je veux qu'on en parle parce que j'ai entendu dire, puis il y a beaucoup de ça, hein, quand on parle de médecine, en général, là, que si tu exposes tes enfants, par exemple, ou même dans le ventre de la maman, à toutes sortes d'aliments, une variété de plein d'affaires, tu vas éviter peut-être certaines allergies. Est-ce que c'est vrai, ça?
Oui, en partie, et maintenant c'est appuyé par la science. Et ça vient vraiment déboulonner ce qu'on conseillait aux parents, il y a à peu près une quinzaine, vingtaine d'années. Il y a certaines personnes qui nous écoutent qui ont probablement connu le guide de mieux vivre, où est-ce qu'on enseignait aux jeunes parents comment bien s'occuper de leurs enfants. À une certaine époque, on disait, ben si tu penses que ton enfant est à haut risque de développer des allergies, parce que tu as un autre enfant qui a des allergies alimentaires, ou parce que toi-même, tu souffres d'allergies, ben pour mettre les chances du côté de ton enfant, peut-être qu'on va retarder l'introduction de certains aliments, comme les noix et les arachides, en disant que peut-être que plus longtemps qu'on attend, ben moins l'allergie va arriver. Et maintenant, on sait que c'est probablement faux ce qu'on disait à nos patients. Il y a une étude parue en 2015 où est-ce qu'on a pris des très, très jeunes enfants et on a fait complètement le contraire. Au lieu de dire on attend avant d'introduire des arachides, on a dit aux parents d'introduire les arachides sous forme de friandises aux enfants en bas de l'âge de 1 an. Et il y avait un autre groupe où est-ce qu'on a dit tu vas introduire les arachides, mais probablement après l'âge de 1 an, et on va revoir les enfants lorsqu'ils vont avoir 4-5 ans. On avait deux groupes. Et on s'est aperçu que dans le groupe où est-ce qu'on faisait l'introduction hâtive de l'arachide, donc avant l'âge de 1 an, on diminuait de 85,1% le risque de développer des allergies à cet aliment par rapport aux enfants chez qui ça avait été introduit un petit peu plus tard. Donc ça, c'est super important. On dirait que la tolérance immunitaire se joue dans les premiers mois de vie. Maintenant, est-ce qu'on peut extrapoler ça à tous les aliments en général? Peut-être pas, mais il y a d'autres études qui vont peut-être nous apporter un éclairage à ce propos.
Mettons-le, moi, je suis intolérante au lactose. Il y a des produits qui me font pas mal plus réagir que d'autres. Je suis enceinte. J'ai la drôle de pensée magique pour éviter à mon bébé d'avoir des intolérances ou des problèmes avec le lactose, de m'en imposer de temps en temps en me disant ben, peut-être que s'il en consomme, parce que j'en consomme, ça va justement diminuer les chances que lui ait des problèmes avec ça. Est-ce que c'est une bonne façon de faire ou pas en tout?
On dirait qu'il y a une partie de moi qui se dit « Audrey, c'est complètement débile. » Puis après ça, je réfléchis.
Ben,
je suis comme,
c'est débile pour moi.
Mais, ça, oui,
mais pour mon bébé, autres, si c'est bon, mais, je me dis « Regarde, un mal de ventre dans la journée, au pire.
Ouais. »
Ça, c'est bien les mamans, ça, hein, prêts à tout faire pour leurs enfants, même se faire du mal. Non, il ne faut pas nécessairement combattre le feu par le feu. Puis Audrey, c'est super intéressant parce que ça fait intervenir un autre concept qui est différent de l'allergie, donc l'intolérance. Je pense que ça vaut la peine qu'on prenne quelques minutes pour différencier les deux concepts parce que ce n'est pas du tout la même chose. Alors, l'intolérance alimentaire, c'est complètement différent de l'allergie. L'intolérance, c'est pour une raison qu'on ignore, notre corps n'arrive pas à digérer certains aliments. Alors, le système digestif dit, si je ne peux pas retirer des nutriments de cet aliment, je vais le faire sortir par le chemin le plus court, par en haut, par en bas ou les deux. Donc, l'intolérance...
Ça, t'es chanceux dans ce temps-là.
Et on espère qu'on soit à la maison, tranquille, seul, proche d'une toilette. Donc, l'intolérance, c'est plus des symptômes digestifs et c'est dépendant de la dose. Probablement que si vous mettez un petit peu de lait dans votre café, vous n'aurez pas de problème. Par contre, si vous tapez un litre de lait, ben, c'est sûr que ça va brasser un peu dans le gorgoton là, pour quelqu'un qui est intolérant au lactose. Donc, l'intolérance, ce n'est pas une allergie. Lorsqu'on parle d'une allergie, c'est une réaction qui est beaucoup plus grave, dangereuse, potentiellement mortelle. Donc, l'allergie, ça fait intervenir le système immunitaire et on n'aura pas seulement des symptômes digestifs. On peut avoir des symptômes cutanés. Donc, sur la peau, on peut avoir de l'urticaire, de la démangeaison, des plaques qui grattent, l'enflure au niveau des lèvres, la langue, et ça peut toucher également les voies respiratoires. Dans un contexte d'intolérance, on n'a pas besoin d'auto-injecteur d'adrénaline. Ce n'est pas grave ou dangereux pour la vie. On peut en consommer des petites quantités sans qu'il y ait nécessairement des symptômes.
Mais est-ce que c'est bon dans le sens où est-ce qu'on peut intensifier une intolérance si on en mange? Tu sais, moi, mettons, je suis intolérante au lactose, là, mais j'adore les produits laitiers. Fait que si je vais chez quelqu'un, je n'imposerai pas mon intolérance, j'ai déjà assez d'allergies. Fait que si on mange une fondue au fromage, ben, va me serrer deux fesses, tu comprends, va passer à travers ma soirée, puis je vais consommer.
Tu vas t'imposer à la salle de bain après. Mais ça, c'est autre chose.
C'est un autre dossier. Mais je me dis, est-ce que je peux intensifier mon intolérance ou je m'aide dans ce temps-là? Parce que là, maintenant, avec les allergies, on voit la désensibilisation. Fait que ça va de quel bord avec l'intolérance?
Alors, on ne peut pas se désensibiliser à l'intolérance. D'un autre côté, ça ne va pas faire un phénomène crescendo en disant que chaque fois que je vais consommer l'aliment qui me donne une certaine intolérance, ça va être pire de fois en fois.
Ça change
l'intolérance,
rien.
Exactement, c'est comme des montagnes russes. Puis les gens aussi s'aperçoivent que dans un contexte où est-ce qu'ils couvrent une infection, qu'ils sont fatigués ou plus stressés, on dirait qu'ils sont justement plus intolérants. Ça prend une moins grande quantité de l'aliment pour déclencher de gros symptômes.
Est-ce que c'est génétique? Parce que ça, on dirait que c'est un débat qui change aux 5 ans. J'ai entendu oui, j'ai entendu non. Mais en même temps, moi, dans ma famille, ma mère est allergique mortellement aux poissons fruits de mer. Je reprends cet exemple-là. Mon frère a eu ces allergies-là et sont disparues. J'ai encore ces allergies-là. Fait que j'ai l'impression que d'une façon ou d'une autre, c'est un peu génétique. Est-ce que ça l'est ou non?
Oui, en partie. Alors, si on revient du point de vue des allergies, c'est sûr que si, par exemple, on a deux parents qui ne souffrent d'aucune allergie, on parle des allergies en général, donc que ce soit allergies respiratoires comme l'asthme, le rhume des foins, des allergies alimentaires, l'eczéma, si aucun des deux parents a de l'allergie, le risque que leur enfant développe des allergies un jour, c'est à peu près 10 %. Par contre, si un des deux parents souffre d'allergie, le risque de l'enfant, c'est 30 à 40 %. Et si les deux parents souffrent d'allergie, on augmente ça à 70 %. Alors, clairement, il y a quelque chose de génétique en dessous de ça. Il y a une prédisposition génétique qui fait en sorte que les enfants vont développer des allergies, mais pas nécessairement la même que les parents. Hein? Un père pourrait avoir des allergies aux poissons fruits de mer, mais l'enfant va avoir du rhume des foins. Donc, on parle d'une prédisposition vraiment plus large et non pas spécifique à un type d'allergie ou à un aliment en particulier.
C'est intéressant, ça, parce que moi, dans ma tête, je retournais à la logique de l'exposition. Je me disais, ben, c'est peut-être parce que ma mère est allergique, m'a jamais exposée aux poissons et fruits de mer, et donc j'ai développé ça, mais c'est
non,
plus large.
Non, vous ne pouvez pas en vouloir à votre mère.
Colline!
Du moins pour ça.
Mais c'est ça. Ça n'a pas l'air appétissant de toute manière, mais en même temps, j'en ai jamais mangé, je peux pas parler, là. Est-ce que on a... Ben, j'allais dire, est-ce qu'on a un contrôle? J'imagine que oui, parce que de plus en plus, il y a certaines allergies qu'on peut justement désensibiliser en jeune âge. Moi, l'animateur avec qui je travaille en après-midi, Denis, ses kids ont eu des problèmes avec les œufs puis les arachides. Mm-hmm. Puis il a été capable de faire un genre de programme de désensibilisation pour les aider. Ils étaient les deux en bas de 10 ans à ce moment-là. Mm-hmm. Mais il y a des allergies, de ce que je comprends, avec lesquelles on peut pas faire de désensibilisation.
Bien, il y a trois grands types de désensibilisation qu'on peut maintenant offrir à nos patients. Il y a la désensibilisation aux allergènes respiratoires, que ce soit les animaux, poussière acarien et les pollens. Le deuxième type de désensibilisation qu'on offre à nos patients, c'est les gens qui sont allergiques aux venins de guêpes et aux abeilles. Donc ça peut se désensibiliser par injection. Et finalement, depuis quelques années, on offre au Québec et à Québec la désensibilisation alimentaire. Mmh. Donc, on peut l'offrir, ça marche bien chez les jeunes patients. On peut même avoir un espoir de guérison chez les patients en bas de l'âge de 4 ans. En bas de l'âge de 10 ans, c'est encore faisable, mais chez les jeunes adolescents, les ados puis les adultes, ça marche un petit peu moins bien. Quand on parle de désensibilisation, imaginez, on ouvre là, un dictionnaire puis on dit, bon, qu'est-ce que ça veut dire la désensibilisation? Alors, la définition, c'est induire un état de tolérance par rapport à un allergène donné. Alors, c'est des beaux mots, mais est-ce que j'ai utilisé le mot guérison? Non, absolument pas. Donc, la désensibilisation, les gens ont parfois cette pensée magique que parce que je vais être désensibilisé, je vais être guéri. Si on me désensibilise contre mon allergie aux arachides, c'est sûr que je vais être guéri. Malheureusement, ça n'arrivera pas dans tous les cas. Il faut donc avoir des attentes réalistes lorsqu'on va entamer un processus qui peut s'échelonner sur plusieurs années.
Ça se peut qu'en bout de ligne, tu vas jamais manger des peanuts comme s'il n'y avait pas de lendemain, mais que si à un moment donné, tu en touches, ça ne te tue pas. Ben, c'est ça que tu auras gagné.
Exactement. Juste pour se donner un ordre d'idée, parce que ça va faire écho à l'article là, qui a paru au début du mois d'août, on prend l'exemple des arachides. Bon, les arachides, c'est à peu près 250 mg de protéines. Alors moi, sous supervision médicale, je vais commencer à des petites doses, 1 à 5 mg de protéines. Donc, c'est vraiment de la poudre de perlimpinpin d'arachide que je donne à mes patients. Et je vais leur demander de prendre cette même quantité tous les jours. Et de mois en mois, je vais les revoir pour doubler les doses, jusqu'à temps qu'on arrive à ce qu'on appelle une dose d'entretien. Une dose qu'on sait, par les études médicales, cette dose vient agir sur le système immunitaire. Et cette dose, c'est, dans le cas des arachides, 500 mg, donc deux peanuts. Alors, on est quand même loin de la toast au beurre de peanuts que je vais manger goulûment le matin. Ceci dit, puisque j'augmente mon seuil de réaction, ça me prend une plus grande quantité avant de développer une réaction allergique, bien, ça augmente ma marge de sécurité.
Mais oui,
ça fait en
sorte
que si j'ai une exposition accidentelle, j'aurai peut-être pas de réaction.
Ah, j'aime ça. Je trouve ça super intéressant. Faut qu'on parle de cet article du Devoir avant qu'on se laisse. L'idée part qu'il y a un nouveau traitement prometteur pour les allergies alimentaires et on parle d'une transplantation de microbiote fécal. On dirait que ça ne m'attire pas pantoute, docteur Boursicot. Je ne sais pas si vous pouvez nous expliquer.
Oui, et je vois aussi l'heure du dîner approcher. Là, ça va peut-être couper l'appétit à certains, mais pour la science, ne reculons devant rien.
C'est ça, on n'a pas le
avançons.
Choix.
Alors, c'est une étude super intéressante que moi-même, je n'avais pas lue. C'est un de mes patients qui m'a dit « Hey, docteur Boursicot, avez-vous vu? Ça a été publié au début du mois d'août. Ça a l'air d'être super intéressant. Une transplantation fécale de microbiote. » Alors, je vais expliquer un peu aux gens à la maison et au bureau qu'est-ce que ça mange en hiver, là, comme vous disiez tout à l'heure. Alors, c'est une étude où est-ce qu'on a vérifié comment certaines bactéries de l'intestin pourraient aider le système immunitaire à devenir un petit peu plus tolérant aux arachides. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a pris aux États-Unis 15 patients adultes qui avaient des allergies aux arachides. C'est des patients qui toléraient en moyenne l'équivalent de 100 mg d'arachides, ce qui veut dire un peu moins qu'une demi-pinote. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a donné un microbiote assez patient sous forme de capsule, microbiote qui a été récolté dans les selles de donneurs sélectionnés. Donc, des gens qui n'avaient pas d'allergie alimentaire, on a pris leurs selles et on a été chercher le microbiote. Alors, le microbiote, qu'est-ce que c'est? Ce sont des bactéries complètement saines qui nous aident là, à mieux digérer, à mieux vivre en équilibre avec les moins bonnes bactéries.
Fait que c'est pas littéralement des pilules de caca, là.
Non, non.
Donc, je mets ça clair, là.
Ça pouvait difficilement être comme, plus clair.
Oui. On a enlevé l'excédent. Fait que c'est
parfait.
Sûr que les grains de maïs
puis
le tournedos de poulet mangé la veille n'étaient pas dans ces capsules.
Je voulais qu'on se comprenne. Parfait.
Et ça me fait penser, pour les gens qui trouvent ce mécanisme très prometteur, s'il vous plaît, ne faites pas ça à la maison. Hein?
Hey,
c'est
boy,
encadré
non.
par la science.
Non, mais on fait bien, hein? On ne sait jamais.
Alors, ces personnes-là, on leur faisait ingurgiter des capsules qui contenaient de ces bactéries. Et on a attendu quelques mois et on les a challengées de nouveau à des doses croissantes d'arachide. On essaie de voir, est-ce que ces patients-là arrivaient à consommer une plus grande quantité d'arachide? Alors, la réponse, c'est oui, en partie. Il y a 6 patients sur 15, donc environ 40 % des patients qui étaient capables de tolérer une plus grande dose d'arachide. Alors qu'en moyenne, les gens partaient aux alentours de 100 mg d'arachide, donc à peu près une demi-pinote, il y a un des patients qui était capable d'atteindre 300 mg, un peu plus qu'une arachide, et il y a 5 autres patients qui étaient capables de tolérer 600 mg d'arachide, donc 2,5 arachides en moyenne. C'est donc beaucoup plus, c'est prometteur, mais un, c'était pas efficace chez tout le monde, et deux, on est encore loin de la toast au beurre de peanut le matin.
Mais ça peut-être nous mener encore une fois à une gestion potentielle d'accident si grand-maman a fait un gâteau avec de l'huile d'arachide, mettons, là, tu sais.
Oui, on est encore loin quand même de la commercialisation d'un tel produit parce qu'il y a encore beaucoup de questions sans réponse. Pourquoi c'est seulement 40 % des gens qui répondent et non pas l'entièreté? Est-ce que c'est quelque chose qui va être durable dans le temps? C'est quoi dans toutes ces bactéries qu'on retrouve dans le microbiote, celle qui est la plus utile? Est-ce que ça va marcher pour non seulement les arachides, mais pour tous les aliments? Donc, c'est sûr que c'est extrêmement intéressant comme approche, c'est novateur, mais il y a encore beaucoup d'eau à couler sur les ponts, avant de traverser le pont puis se rendre à la rivière pour avoir quelque chose qui va être disponible en tablette et qu'on va pouvoir offrir à nos patients.
Tu vis, Max, ton expression commence à se promener partout.
Ben oui,
une chance que tu l'as inventé.
Hey, hein? J'ai jamais dit que je l'avais inventé. Là, tu prends mes propos, tu les déformes.
Docteur Jean-Nicolas Boursicot, d'après moi, on n'aura pas le choix de se rejaser parce que j'ai encore plein d'affaires sur ma feuille. Je pense à l'acupuncture qui, pour certains, est une façon de se débarrasser de certaines allergies. Il y a des métaréalités et réalités, pardon, qu'on peut aborder ensemble aussi. Fait qu'on se reprendra rendez-vous dans les prochaines semaines.
Ça sera avec grand plaisir. Merci de votre invitation.
Merci
beaucoup. À vous.
Audrey Pinchot, on t'écoute raconter tes aventures de déménagement dès 14h dans le retour.
Yes!
Et nous, on se retrouve au retour de la pause. Petit tour des nouvelles. On jase de la sortie importante de Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois ce matin. Et on se parle de Katy Perry et Justin Trudeau qui bénéficient d'une grosse protection de la GRC.